vous écoutez Ainsi soit-elle.
Quand j'étais petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique. Deux hommes déshabillés, de drogue commandée, d'amour et de tuer.
Alors bienvenue, vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3 avec les filles de Ainsi soit-elle. Aujourd'hui, on a un nombre de records de filles de soit-elle en studio. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été autant. Alors à la mise en onde, on a Claire qui fait ses débuts solo en compagnie de Chantal et de Marie Meudec pour la première fois. Une collaboratrice qui peut-être va venir plus souvent. Et on a Geneviève et moi, Hélène, qui vont vous faire une petite émission spéciale sur le Salon du livre anarchiste et le Festival de l'anarchie qui, malheureusement, se déroule tout à Montréal, mais il y a plein de choses intéressantes à dire pareil. Donc, on va vous parler de ça, puis on va vous parler aussi des événements culturels et des perspectives théâtrales autour des artistes qui vont se produire à Montréal, mais on va faire un petit peu de background là-dessus pour vous les présenter. Alors, c'est ça, on a beaucoup de culture dans l'émission, puis beaucoup de choses sur le Salon du livre anarchiste. Alors, pour le moment, on va y aller en musique, puis on vous revient avec une petite présentation du Salon du livre. Alors, on va aller écouter The Herbalizer avec la pièce « More Tea, More Beer ».
Times, 'cause I can do it like that. Yep. Yeah. Yeah. We call it tea and beer, not teen beer, America. You really gotta explain everything. But we do it again. Come on. Totally fucking incredible for a second time. In 20 years, I say the gene was ahead of a rhyme, ahead of a dime with a body of sin and a mouth full of fucking impossibly hostile and cocky cherubim. Let it in, let it shine, won't. Afraid of the mind, don't shut up from it. I'm flooding your dry boats with 100 gallons of float, but sinking is slow. So just when you're thinking you're slow, we be drinking and moat. I'm liquid, ubiquitous, gene be everywhere. Like hemophiliac, silly to bleed heavy air. I'm levels over retarded, like heaven making a degree of separation. Apart from the holy God, I'm making references wrong. Singing is just words. If offended, then you step along into the curb and a rentable plow into your splinter in all parts. And I laugh hard when I'm putting the splint in your heart. Come on, try harder, but why bother? You'll never be fresh and clean. Best of that's the key. Listen when you want relief. Pressure, get your knees pressed up. And if you're drinking tea and beer, gotta pee, get up. Come on, try harder, but why bother? You'll never be fresh and clean. Best of that's the key. Listen when you want relief. Pressure, get your knees pressed up. And if you're drinking tea and beer, gotta pee, get up. Come on, spit up rich shit, pick up and dollars abrupt. And then I follow it up, coughing cholera stuff. Hobbledy, gibbledy, go, and fuck if it's a word. Fliggle, wriggle, be tap, nigga, I'm not concerned. See, I can burn you with gibberish, frivolous rap, and turn you out like a curl in a permanent cap. Affirmative, earn that, confirmative, firm rap. Blurt back, then I hit you with a stern slap. And then journeys come, and your attorneys run. But leave quicker than fraternity, son. Remember, I'm your mama, fuck your daddy. You little pansy, I'm erratic, I'll buck the nanny. Huff the nose, chuck steak in the panties and clothes. Take it to the pound, let it roam with the animals out. Ho, bloody hell on the seat of a great woman indeed. It was just a day to be fresh and stale rookie. Come on, try harder, but why bother? You'll never be fresh and clean, special, that's the key. Listen when you want relief, pressure, get your knees pressed up. And if you're drinking tea and beer, gotta pee, get up. Come on, try harder, but why bother? You'll never be fresh and clean, special, that's the key. Listen when you want relief, pressure, get your knees pressed up. And if you're drinking tea and beer, gotta pee, get up. Come on. You know what tea and beer would taste like if you put them together? Not good. I'm willing to bet. But you know, I could do it. Because I'm fresher than you. And you are shit!
Alors, c'était The Herbalizer sur les ondes de CKIA. Alors, aujourd'hui, à l'émission Ainsi soit-elle, on vous présente le Salon du livre anarchiste et le Festival de l'anarchie qui se déroule... le festival, en fait, c'est tout le mois de mai, du 1er au 31 mai à Montréal. Et le Salon du livre anarchiste, c'est en fin de semaine, en fait, le 16 et le 17 mai à Montréal également. Alors, le Salon du livre à Montréal, c'est la 10e édition. Donc, ça fait 10 ans que ça existe déjà. C'est un événement qui a pris de l'ampleur avec les années. Ça a commencé en étant relativement petit, puis avec les années, ça l'a grossi. Et avec les années, c'est devenu en même temps un festival de l'anarchie, je pense, depuis autour de 2004 ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça fait plusieurs années là, qu'il y a un festival qui accompagne, dans le fond, le Salon du livre comme tel.
Et qui dure tout le mois de mai, en fait.
Et qui dure tout le mois de mai avec plein d'activités là, à toutes les semaines, des activités de différentes natures. Là, on aura l'occasion de faire un petit tour d'horizon là, au cours de l'émission pour vous présenter la diversité des activités qui sont présentées. Puis, le Salon du livre, c'est un des... le Salon du livre de Montréal, c'est un des plus gros événements, un des plus gros rassemblements anarchistes en Amérique du Nord, en fait. Je dirais peut-être après le Salon du livre de San Francisco, c'est un des plus gros, donc qui rassemble le nombre le plus important d'exposants, de petits collectifs d'édition, de kiosques, d'invités qui se déplacent, dans le fond, des Amériques, mais aussi d'Europe, de France. Il y a plusieurs personnes qui viennent du nord des États-Unis, qui vont venir de la côte ouest américaine, qui vont venir de l'Ontario et tout ça. Donc, c'est quand même un rassemblement important. C'est un moment d'échange et de débat à propos des idées anarchistes, anti-autoritaires. En fait, c'est un lieu vraiment de convergence pour les anarchistes de différentes tendances qui se rassemblent là pour voir un peu ce qui se fait ailleurs, puis prendre des nouvelles idées, pouvoir, dans le fond, avoir accès à des publications qu'on n'a pas accès, dans le fond, dans les librairies commerciales, si on veut. Là, c'est pas des choses qui sont distribuées par des grosses maisons d'édition puis qui sont vendues en librairie. Donc, c'est des plus petits pamphlets et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est un point de convergence puis de référence aussi pour des idées, des pratiques. Puis, dans le fond, c'est un lieu aussi pour discuter, dans le fond, de ce qui se fait ailleurs. Donc, en même temps que le Salon du livre, non seulement il y a des tables avec les producteurs, les distributeurs qui vont étaler, dans le fond, leurs publications, mais il y a aussi des ateliers, des discussions, des échanges sur différents enjeux. Puis c'est ça qui fait, dans le fond, que c'est pas juste un salon où tu ramasses de la publication. C'est aussi un lieu où on peut s'alimenter en termes d'idées, en termes de lutte, en voyant ce qui se fait ailleurs, puis alimenter, dans le fond, nos pratiques à nous. Alors, c'est ça. Le but du salon, c'est un peu ça, c'est de rassembler des idées, des pratiques qui se font un peu partout, mais à travers différents moyens aussi. C'est pas juste des livres, c'est pas juste des brochures. Il y a des expositions d'art visuel, d'affiches, d'œuvres de différentes natures. Il y a de la musique, il y a du théâtre. Puis c'est pour ça, je pense, que ça a peut-être pris l'expansion en un festival aussi, parce que présenter tout ça en deux jours dans un salon du livre, bien, c'est peut-être pas évident non plus. Puis aussi, le salon du livre, c'est une occasion pour faire des liens avec des luttes aussi qui sont menées ici ou ailleurs, puis de présenter des luttes qui se passent soit à Montréal, évidemment, parce que c'est là que ça se déroule, mais aussi présenter des luttes qui sont en cours ailleurs. Donc, de faire des liens aussi entre des luttes similaires. Et c'est ça. Puis, dans le fond, ça s'adresse à qui? Bien, ça s'adresse à des anarchistes, mais à des gens, dans le fond, qui se définissent comme anarchistes déjà, mais ça s'adresse aussi aux gens qui sont curieux puis qui veulent juste... qui se demandent, qui ont déjà entendu ce mot-là, puis qui se demandent un peu c'est quoi, puis qui ont envie juste de peut-être découvrir un peu c'est quoi, puis d'en entendre parler, puis de...
Faire un tour d'horizon, mettre le nez dans quelques livres qui pourraient traiter de la question. Puis ce que je voulais peut-être ajouter, ce qui est super intéressant, je trouve, quand on met les pieds au Salon du livre, c'est tout l'effort et le souci d'inclusivité et de, comment dire... Par exemple, pour les enfants, il y a un espace de jeu, il y a des gens qui se proposent comme bénévoles pour la journée pour prendre soin des enfants. Il y a toute une cuisine pour les gens c'est varié selon les menus qu'on désire, tout ça. Donc, c'est vraiment, je trouve qu'il y a un beau souci, puis il y a une belle énergie finalement de solidarité. Et d'inclusivité, en fait, dans ce salon-là.
Oui, puis je pense que ça fait partie des principes qui sont à la base même de l'organisation, ce festival-là. Dans le fond, ça se veut un lieu super inclusif où on accueille tout le monde, peu importe ses tendances à l'intérieur, je dirais, de la sphère de gauche anti-autoritaire, là. Mais, tu sais, on essaie d'inclure, dans le fond, la plus grande diversité, puis d'avoir un échange, dans le fond, par rapport à ça. Mais il y a aussi des principes où on veut favoriser l'accessibilité à ce moment-là à plein de gens différents qui ont des barrières différentes. Fait que comme comme tu dis, il y a une zone pour les enfants, il y a un service de garde, il y a différentes mesures qui ont été mises en place pour faire en sorte que les gens qui ont peut-être moins de possibilités puissent y aller puis puissent en bénéficier autant. Autre exemple de ces mesures comme ça, évidemment c'est un événement qui est gratuit là pendant l'accès, puis bon, il y a comme aucun frais. Il y a des services de traduction anglais-français parce qu'il y a plusieurs ateliers qui se donnent soit en anglais, soit en français. Fait que au besoin, il y a des gens qui vont traduire, qui vont s'asseoir à côté de toi puis vont traduire l'atelier pour être sûr que tu comprennes. Il y a une préoccupation pour que le lieu physique soit accessible aux gens en fauteuil roulant. L'espace central, puis une chose intéressante, je trouvais, c'est que ils donnent comme principe, dans le fond, qu'au besoin, les ateliers qui sont peut-être dans des endroits qui sont pas accessibles, ils s'offrent de les déplacer sur demande. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis en fauteuil roulant, puis je veux absolument aller à un atelier que je trouve super intéressant, mais qui se donne au troisième étage, bien, je peux demander, tu sais, puis ils vont accommoder, dans le fond, pour donner accès à cette personne-là. Évidemment, il y a une politique de tolérance zéro sur les comportements racistes, sexistes, homophobes. Évidemment, il y a comme une série de principes qui sont là puis qui sont établis là quand même pour.
Est-ce que tu es au courant s'il y a des équipes de médiation aussi? Il me semble que j'ai déjà vu ça au salon, comme il y a comme des outils de médiation dans des cas comme tu viens de mentionner.
Je ne sais pas c'est quoi les mécanismes qu'ils ont mis en place, mais oui, ça serait intéressant de savoir quel genre d'intervention ils font si jamais il y a un événement comme ça qui survient. Mais je sais que les gens qui animent les ateliers sont habituellement des gens qui sont assez habitués d'animer un groupe puis de bon. Fait que peut-être qu'ils ont des, ouais, c'est ça, peut-être qu'ils ont des instructions plus précises. J'ai aucune idée, mais effectivement, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils feraient s'il y avait un événement. S'il y avait quelqu'un qui prononcerait, je sais pas, un commentaire complètement raciste, là, comme.
Au micro.
Ouais, genre, comment il interviendrait. Alors, c'est un peu ça, c'est un peu un tour d'horizon. Là, on va. Ouais, je pense qu'on va aller en musique. Et je sais pas du tout ce qu'on va aller écouter, mais on va vous le dire après, finalement, je pense.
Messieurs, l'heure est choisie. Ça fait longtemps que j'y pense. Bombarder l'édifice, faire de la contrebande. Allons lumière et diplomatie, l'honneur de la pression se mérite. Le coup de tête d'un père de famille, si je comprends c'est moi qu'on enlise. Ce sourire cache l'envie de trahir, ne vous y trompez pas. Ma vie j'la gâche et hâte de finir, le sort est contre moi. La messe est dite, sortez. Les objets contendants, torture. Libère mon territoire, l'espoir est sur mon continent. Messieurs, je regarde le soleil jusqu'à le griller la rétine. Si je plonge, vous viendrez avec moi. Respiration profonde. Ce sourire cache l'envie de trahir. Ne vous y trompez pas. J'ai hâte de finir, le sort est contre moi. Ce sourire cache l'envie de trahir, ne vous y trompez pas. Ma vie j'la gâche, j'ai hâte de finir, le sort est contre moi. Pas. Ma vie j'la gâche, j'ai hâte de finir. Le sort est offre-moi.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Ainsi Squat-t-elle sur les ondes de CKIA FM 88,3. Et on vous présente, dans le fond, la programmation du Salon du Livre anarchiste qui se tient à Montréal en fin de semaine prochaine, donc samedi et dimanche prochain, à Montréal. On n'a pas dit c'était où, mais c'est au Centre CEDA, qui est situé au 2515 rue de Lille. Je pense que c'est dans le coin du métro Lionel-Groulx. Si je ne me trompe pas. Et donc, toute la fin de semaine, il y a, il y a le Salon du livre. Donc, il y a des exposants qui sont là à travers toute l'Amérique du Nord, qui sont venus à Montréal pour présenter leur livre et tout ça. Mais il y a aussi une série d'ateliers, de conférences qui se passent en même temps. Donc, on vous présente un petit tour d'horizon juste pour vous donner envie, dans le fond, d'y aller et de participer là, à différentes événements ou ateliers qui vont se tenir. Un des exemples d'ateliers, il y a un atelier, dans le fond, d'introduction à l'anarchisme. Il y a deux ateliers, en fait, qui sont essentiellement le même, un en anglais, un en français, qui s'appelle « Revendiquer l'impossible, un partage des visions de l'anarchisme ». Puis, dans le fond, c'est sous forme assez ouverte, puis c'est, dans le fond, une douzaine d'anarchistes de différentes tendances qui présentent un peu leur vision, comment ils ont découvert ces idées-là, ces pratiques-là, qui vont présenter chacun là, en 12 minutes un peu là, qu'est-ce qui a marqué leur relation à l'anarchisme. C'est organisé, entre autres, par le collectif du Salon du Livre anarchiste, par Jaggy Singh, qui est un militant anarchiste bien connu à Montréal. Il y a un atelier sur les principes anarchistes, peut-être un petit peu plus théorique. Il y a un atelier qui est donné par un militant de Québec qui s'appelle Mathieu Courcel sur l'histoire de l'anarchisme au Québec. Puis c'est quand même intéressant parce qu'on connaît peu les groupes et les pratiques libertaires qui ont été développées à Québec. On connaît des militants américains, on connaît des militants français, on connaît comme les icônes de l'anarchisme, mais au Québec, il y a eu des choses qui sont passées. Et Mathieu Courcel va présenter ça samedi à 13h. C'est, dans le fond, un peu le contenu de son livre qu'il a publié l'année passée là, sur les traces de l'anarchisme au Québec. Donc, il retraçait 100 ans d'histoire de l'anarchisme au Québec. Donc, ça, c'est un exemple d'atelier. Un autre truc intéressant, une militante anarchiste française qui présente « Vivre en anarchiste de l'exemple historique des milieux libres aux pratiques actuelles ». Donc, c'est peut-être un atelier un petit peu plus pratique, dans le fond, sur comment l'anarchiste se met en œuvre dans des exemples concrets, dans des lieux de vie, dans des lieux de communauté, comment ça se construit au quotidien, puis c'est quoi les défis de ça aussi, parce que il y a certainement des difficultés à s'organiser collectivement. Il y a des choses super intéressantes, super enlevantes, mais il y a aussi des difficultés. Donc, c'est Céline, une militante anarchiste française, qui présente ça samedi également. Autre chose, il y a des ateliers qui sont plus, je dirais, plus pratiques peut-être, ou plus participatifs même. Samedi, dans la journée, il y a des ateliers de théâtre et de performation. C'est peut-être une mauvaise traduction, parce que c'est un atelier qui se donne en anglais. Alors, en fait, c'est un atelier sur le théâtre anarchiste, sur l'agit-prop et sur la sensibilisation sur la situation de Gaza par en fait, c'est inspiré d'une pièce qui s'appelle « My name is Rachel Corey », par un collectif ontarien qui s'appelle « Organic Underground Political Theatre Collective ». Qui, Geneviève, est-ce que j'ai à dire sur le sujet?
Ah non, j'ai juste envie de présenter le prochain.
Ah oui, ben oui, présente-le. Vas-y.
Ah, je pensais que je voulais pas te couper la parole dans celui qui était en train de présenter le théâtre qui a l'air fort intéressant. En fait, moi, je voulais juste vous présenter celui qui vient tout de suite après, qui sera à l'extérieur peut-être si la température le permet. Alors, il est intitulé « Toutes les villes
ont besoin d'une fanfare militante.
Ouais.
Et c'est l'ensemble insurrectionnel chaotique, une fanfare très colorée et très vivante qui organisera un atelier très musical, tout en danse, en bruit, en déguisement. C'est vraiment un atelier de folie. Alors, ramenez tout élément que vous trouvez pertinent et intéressant et
c'est sûrement participatif aussi, j'imagine.
Vraiment, c'est carrément ça l'objectif, c'est de créer un moment de partage, de folie, de musique et de...
C'est un genre de gros jam ou...
Ouais, c'est très fanfare, là. Ouais. Puis eux, évidemment, le groupe ont des chansons à nous proposer, puis... Ouais. Parce que moi, j'ai fait partie du groupe de danse, là, qui accompagnait la fanfare dans les divers... Alors, c'était très, très intéressant, donc voilà.
S'il fait beau, je pense que ça va être à ne pas manquer. Alors, ça, c'est pour le samedi, puis le lendemain, dans le fond, il y a plusieurs autres ateliers qui se poursuivent, des ateliers peut-être encore plus de fond, là. Il y a un atelier sur les luttes urbaines et le changement social, qui est toujours d'actualité, qui est donné par un militant aussi de Québec qui s'appelle Nicolas Phébus. Et il y a aussi un atelier que moi, je trouve qui est assez intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est un atelier qui se donne en anglais, par contre, qui s'appelle « Anarchisme et discrimination fondée sur les capacités physiques, politique radicale de l'handicap, inclusion et résistance ». Puis c'est quelque chose qu'on discute peu. En fait, c'est sur comment les milieux militants ou les milieux anarchistes intègrent des politiques ou des réflexions sur le handicap, sur les limitations que différentes personnes peuvent avoir. Puis, entre autres, c'est organisé par différents collectifs, mais entre autres, un collectif qui a le site web qui s'appelle, mais je trouvais juste ça beau de le dire, qui s'appelle « If I can't dance, it is still my revolution ». Pour paraphraser la phrase d'Emma Goldman qui disait « Si je peux pas danser, c'est pas ma révolution », ben en fait, les personnes handicapées, ben si moi je peux pas danser, ben c'est aussi ma révolution, je trouvais ça bon. Alors c'est un peu dans cet esprit-là que l'atelier va se donner. Il y a d'autres choses sur, en fait, sur des luttes qui font des liens avec l'international, entre autres sur la criminalisation de la contestation politique à partir des expériences au Canada, en Colombie et ailleurs. Il y a des choses sur des expériences historiques aussi, entre autres un atelier sur les femmes et la violence politique qui présente deux militantes, une militante des Black Panther Party dans les années 70 aux États-Unis et Anne Hansen d'un groupe anarchiste qui s'appelait Direct Action dans les années 80, deux militantes dans le fond qui faisaient de l'usage de la violence politique, là, ça fait partie de l'histoire de certains groupes anarchistes, mais là, c'est des femmes qui sont présentées dans ces ateliers-là. Donc, c'est des expériences un petit peu hors de l'ordinaire. Il y a plein d'autres choses. En fait, il y a des choses sur le mouvement queer. Il y a des choses sur des expériences plus pratiques aussi de résistance et d'autogestion. En fait, un atelier intéressant de Marcel Sivigny sur le rôle des libertaires dans les luttes de Montréal, entre autres sur la lutte contre le casino, l'expérience du café la Petite Gaule en Pointe-Saint-Charles. Donc, une réflexion un peu sur les stratégies de lutte des militants anarchistes. Donc, ça peut être intéressant si on se pose dans une perspective plus pratique un peu, là, comment qu'on s'organise, nous, les anarchistes, puis comment on structure nos luttes. Il y a un truc sur l'organisation en milieu étudiant, là, évidemment, pour les gens qui sont encore dans le milieu étudiant, c'est toujours...
toujours.
Excusez-moi, là, je ne vais pas faire de l'âgisme.
La vie.
Eh oui, c'est ça. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, c'est ça. On peut pas tout vous présenter parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Mais ça, c'est pour le Salon du livre. Donc, c'est juste en fin de semaine prochaine. Donc, c'est déjà beaucoup de choses. On va revenir après la pièce musicale pour vous présenter des choses un petit peu plus artistiques. Pour le moment, on s'en va écouter Sister Carol avec Reggae Arena.
Automatically speaking, this is a reggae awakening. Yeah! Watch this. A reggae arena. It in a me here, yeah. West Kingston, Jamaica. A music we charge for. A reggae arena.
Between Amiria with Kingston, Jamaica, and then our music me charge for. Yeah. Rock and sing to the queen. Breeze, you want to the one you love the best. While I skank in my own dress. Ha ha. Open rebuke is better than secret love. While I shower tidings and blessings from above. Yeah, yeah, yeah. Good gosh, reggae arena. A honey in me area. West Kingston, Jamaica. And then a music we charge for. A reggae arena. And it's in me area. West Kingston, Jamaica. A murder me charge for. Massive them a rock and a listen down beat. While Treasure Isle a play right out of Bond Street. Jukebox a rock and it sounding so sweet. A way me reminisce me know I said Jah Jah do it. Me never know me poor to learn it. I no get a garments a shuffle me feet. Liberty to them was just food to eat. But the music to me was my favorite retreat. Yeah, in a the reggae arena. Yeah, reggae arena. West Kingston, Jamaica. And then a music me charge for. As the road starter. Hey. Wanna say big up all the massive and crew from the Treasure Isle State. Sir Cotton Downbeat. Sounding so sweet. Hey. Daddy Alton and Ken Booten. The Tones. Roy Shirley. The man called King Stitch. You Roy. Way down to the place called Kingston, Jamaica. At a reggae arena. In other place called Chacamola. Hey, in the reggae arena. West Kingston, Jamaica. A music me charge for. It in me here, yeah. Hey, as the road starter. Rock steady big boat, yeah. And then the reggae run round, yeah. Dance a la comedia. Rock and comedia. We a go rock and comedia. Automatically speaking, it's a reggae awakening, and it is happening. In the 90s, on to the year 2000. Yeah, yeah. Played by the queen. Rock and combine the nights of any dance I've seen.
Alors, vous venez d'entendre une pièce reggae qui nous a été amenée par Marie. Marie, peut-être que tu voulais nous la présenter.
Ben, vite, vite. Moi, c'était vraiment une de mes bonnes découvertes là, ces derniers temps. Sister Carol, qui est une chanteuse de Jamaïque, puis qui fait plein de chansons quand même assez engagées. Là, sur, ben, y en a une sur le sida, une sur les femmes, la condition des femmes et tout ça. Donc, voilà, moi, je l'ai retenue yeah. Et je l'écoute beaucoup.
Ben merci. C'est bien d'avoir du renouveau musical. Moi, je suis bien contente. Alors, Geneviève, qui a un chat dans la gorge qui essaye de s'en débarrasser.
Discrètement.
Elle veut nous parler du Festival de théâtre anarchiste qui se déroule en même temps. En fait, c'est le Festival international de théâtre anarchiste de Montréal parce qu'il y a des invités qui
Attention.
Viennent de loin. Oui, il se déroule dans le fond demain et après-demain. Donc, si vous êtes à Québec et vous voulez y aller, courez. Ou dépêchez-vous à vous
Appelez-moi!
Rendre à
non, c'est ça. Moi, demain, je me rendrai à Montréal pour assister aux performances et aux présentations.
Aux performations,
fait, on dit. Aux performations,
dit-on. En bonne traduction française!
donc, je m'y suis intéressée et puis je vais vous présenter, je vais faire un court survol de la programmation qui m'a l'air excellente, en fait, et qui m'a surprise pour un des artistes. Alors, je vais vous en parler plus tard. Donc, le mercredi demain, 13 mai, à partir de 19h30, il y aura une troupe Innu de marionnettes géantes de Québec, de Mani...
Mayotenam.
Merci.
Dans le coin de Sept-Îles, en fait.
OK, parfait. Ouais. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est une espèce de conte qui va nous être raconté. Je peux pas vous en dire plus, par contre, parce que je me sens pas à l'aise. Je me sens pas... Et ensuite... après la troupe Innu de marionnettes, il y aura le Living Theater qui nous vient des États-Unis, plus précisément de New York. Et la troupe va nous présenter l'extraordinaire révolution anarchiste non violente, pièce mélangée du Living Theater. Je vous en parle juste plus en profondeur juste après le survol de la programmation. Et le jeudi 14 mai, aussi à partir de 19h30, il y aura un monologue de Geneviève Le Tarte, de Québec. Donc, ce que nous dit le descriptif, c'est que c'est une performance à mi-chemin entre le storytelling, la chanson et le théâtre. À en lire le descriptif, ça a l'air très personnel et très généreux. Alors, ça promet. Et suivra une chorale qui s'intitule La Maison La Virevolte et ses musiciens et musiciennes, aussi de Québec. Et puis ensuite, il y aura encore la pièce du Living Theater, l'extraordinaire révolution anarchiste non violente, un mélange de pièces. Tout ça se déroulera au théâtre, je cherche dans mes papiers.
Théâtre D.B. Clark, au 1455 de Maisonneuve Ouest, près du métro Guy Concordia.
Merci. Et les billets... les billets sont en vente à l'Insoumise, qui est une librairie anarchiste à Montréal, dont je n'ai pas l'adresse, désolée.
Ah, mais moi, je peux t'aider encore. Moi, j'ai comme c'est ça sur la main. Alors, c'est situé sur le boulevard Saint-Laurent, au 2033 Saint-Laurent à Montréal.
J'espère que le tout était clair malgré le... Alors, donc... j'aimerais faire un petit arrêt sur le Living Theater. Je pense que ça vaut la peine. C'est une troupe qui est très connue dans le milieu théâtral et qui...
En fait, c'est comme une sommité du théâtre engagé. Tout le monde qui s'intéresse au théâtre engagé connaît le Living Theater. On n'a pas tous la chance de l'avoir vu, mais toi, tu les as rencontrés, je pense, à New York, en fait.
Oui, c'est ça. Allée. En fait, je reviens de New York, d'un terrain d'anthropologie avec la troupe, finalement. Donc, j'ai approfondi la question.
Quel beau
la dure vie des anthropologues!
c'est exactement ça. Et je saute sur l'occasion, finalement, pour aller les revoir et voir qu'est-ce qu'ils ont concocté. C'est une troupe qui est née en 1947, alors ça fait plus de 60 ans, à New York. C'est une troupe qui est, comme on le disait, mondialement connue. Elle a été fondée par un artiste peintre qui s'appelle Julian Beck et une metteur en scène, je dirais, qui s'appelle Judith Malina, qui, elle, est toujours en vie, donc elle a autour de 82-83 ans. Et, pardon, j'ai un petit problème avec ma voix aujourd'hui, ce soir. Donc, Judith Malina, toujours en vie, toujours pleine de talent sur la scène, elle performe, elle dirige toutes les pièces encore.
Elle est encore impliquée dans...
C'est très impressionnant. Et elle est vraiment le cœur battant de la troupe. C'est elle qui donne beaucoup le ton anarchiste et qui finalement partage le projet révolutionnaire anarchiste.
Puis qu'est-ce qui fait en sorte que le Living Theater, justement, ça porte ce projet-là? Qu'est-ce qui est particulier du Living Theater?
Ce qui est particulier au Living Theater, c'est qu'au départ, c'était une troupe qui se voulait revendicatrice par rapport au mouvement très commercial, le théâtre Broadway, là, très commercial, touristique, qui marchait beaucoup sur l'argent et qui était très peu inclusive, en fait. Et puis, donc, il y a eu un off-Broadway. Le Living Theater est rentré là-dedans, est devenu une figure très, très connue. Et par la suite, c'est vraiment politisé et rentré dans les mouvements antimilitaristes, dans les mouvements pacifistes et dans toutes sortes d'autres mouvements politiques. Et à partir de là, c'est vraiment positionné comme étant un groupe de théâtre expérimental anarchiste. Donc, le slogan principal est devenu « The Beautiful Non-Violent Anarchist Revolution ». Donc, la belle révolution anarchiste non-violente. Alors, c'est vraiment, comme je dirais, l'expression qui est au cœur du projet révolutionnaire de la troupe. Et je trouve que c'est assez particulier parce que c'est une forme bien
vraiment unique en son genre de militantisme et d'art à la fois. C'est vraiment un mélange, une fusion. Et puis, ça crée des moments de théâtre, des performances très fortes où le public et les acteurs rentrent en symbiose et essaient carrément de construire, d'aller chercher un espoir de révolution, de construire des images de ce qu'on devrait faire, tout ça. Ça, c'est vraiment très fort et
puis, comment, moi, c'est vraiment, là, tu piques ma curiosité, comment les gens participent dans leur spectacle? C'est quoi le rôle qu'ils jouent? Est-ce qu'ils vont embarquer sur la scène? Est-ce que c'est...
J'ai vraiment été aux premières loges, là, pendant que j'étais à New York, en fait. La pièce qui était jouée, ça s'intitulait Eureka. Donc, c'était sur l'origine de l'humanité, l'origine du monde, de l'univers. Donc, on se demandait notre place dans tout ça. Et puis, la pièce commençait, la scène était ouverte, les gens circulaient sur la scène. Il n'y avait pas finalement
de séparation.
Les acteurs étaient tout autour, les personnes étaient au centre. Et puis, dès le départ, étaient interpellés, questionner sur comment ils sentaient par rapport à la création de l'univers, comment ils se positionnaient là-dedans, qu'est-ce qu'ils voyaient finalement, qu'est-ce qu'ils proposaient pour améliorer le monde et tout ça. Donc, c'était tout le temps dynamique, tout le temps dans le... C'est pas une forme de confrontation parce que c'est pas... Mais c'est déstabilisant, les gens.
Mais ça demande quelque chose comme public. Oui, là, tu peux pas juste aller là, puis t'asseoir, puis regarder, puis être passif, là.
Donc, le moment de la performance est chaque fois très unique, selon les gens, selon les dynamiques, les expériences, les énergies, tout ça. Alors, c'est très intéressant. Et puis, donc, les gros... Moi, je voulais juste vous dire que... Le spectacle qu'on risque de voir les mercredis, jeudi prochain, demain et après-demain, ça se veut un mélange de pièces, les pièces classiques du Living Theatre, qui sont Paradise Now, qui a été faite dans les années 60, particulièrement mai 68, là. Une pièce qui se terminait dans la rue, en furie, tout nu. c'était « On fait la révolution ».
C'est une autre époque. Right now.
Right now. Et puis, une autre pièce, des pièces comme « Anarchia », qui était comme carrément la construction d'une imagerie anarchiste et une solidarité anarchiste entre les gens. Tout ça, c'est vraiment vécu dans le moment théâtral. Et encore une fois, « Mysteries and Smaller Pieces », plein de tableaux très frappants sur des scènes de corps morts qui sont empilés ou des gens qui se tirent dans la tête. Et des choses très violentes, mais il y a comme des renversements très, 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 je dirais, sensuels après. Donc, c'est comme un jeu d'émotions, de sensations, de renversements, donc voir la cruauté après l'amour, tout ça. Donc c'est vraiment jouer avec ces contrastes-là. J'imagine que ça va être fou,
un condensé
de ces moments forts qui ont marqué l'histoire de la troupe. Alors ça risque d'être fort intéressant, je vais vous en reparler peut-être.
Bien super, en tout cas ceux qui peuvent y aller, ne manquez pas ça, je pense que c'est un événement à voir absolument à Montréal, c'est demain et après-demain. Alors, voilà, pour le moment, on va continuer la musique, puis on va revenir avec encore plus de détails sur le street theater et tout ça. Alors, on s'en va écouter Lily Allen avec la pièce 22.
When she was 22, future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's...
It's true how society says her life is already over. nothing to do and there's nothing to say.
Alors, vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3 Radio Basseville et dans cette petite ère pop musique, on continue l'émission de Squatel et on était parti sur une lancée festival international de théâtre anarchiste et tout ça. Puis là, on va vous parler dans le fond, en fait, Geneviève, parce que je connais rien là-dedans, mais on va vous parler de plus de l'art de rue ou l'art matériel de rue.
On va y aller. En fait, ben c'est ça. Donc vous avez sûrement remarqué mon intérêt pour l'art et la jonction, la rencontre de l'art et de la politique. En fait, je me suis beaucoup amusée récemment et moins récemment à faire des petits stencils dans les rues, à mettre des banderoles à la Saint-Valentin qui disaient achetez moins et jouissez plus, ou à créer des moments, des lieux de subversion à travers la ville. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors aujourd'hui, je me suis dit, bon, ben je vais me pencher la tête dans quelques bouquins et je vais faire des recherches sur qu'est-ce que c'est le street art ou l'art de rue. Mais français, anglais, les gens disent plutôt street art. Donc, et moi, ce que j'entends par là, c'est plutôt l'art que Hélène disait, plutôt matériel, plastique, donc le stencil, le pochoir sur les murs, les installations, les choses visuelles, et moins, par exemple, la musique de rue ou le théâtre ou les choses plus vivantes incarnées. Alors, voilà. Donc, l'art de rue veut vraiment atteindre l'imaginaire, comme je le disais, et ne demande définitivement pas la permission pour exister, souvent illégale. Donc, comme je le disais, bon, par street art, on entend l'art qui est fait dans la rue. En fait, on entend aussi le stencil, comme je disais, on entend les installations, on entend aussi le graffiti. Graffiti qu'on connaît sous la forme plutôt hip-hop, les tags, ouais, reliés aux appartenances, au territoire, tout ça. Et on entend plutôt les courants proches qui se veulent vraiment esthétiques. Donc il y a vraiment plein d'horizons là-dedans, plein de d'approches. Le mouvement du street art est situé approximativement dans la fin des années 70, début 80. Il a commencé plutôt au cœur des grandes villes comme New York et s'est diffusé assez largement en Europe et partout en Amérique. On associe beaucoup le stencil art et les autres courants de rue avec le mouvement pop art, dont Andy Warhol est l'icône principale. En fait, pourquoi? Parce qu'on va rechercher une reproductibilité, on refait beaucoup les mêmes œuvres, donc il y a un impact dans l'imaginaire, dans la mémoire, on voit souvent les mêmes images. Un peu l'idée d'Andy Warhol d'inverser le rapport à l'objet de l'art, au lieu de concevoir la valeur de l'objet de l'art par sa rareté, par son prix incroyable, on va plutôt le considérer par sa reproductibilité, par sa diffusion et tout ça. Donc voilà. On reconnaît évidemment la puissance subversive du street art pour les réutilisations et les détournements des symboles publics, des éléments du décor urbain quotidien. Par exemple, une discrète caméra au coin d'une rue à New York peut devenir sous la canne d'un artiste au cœur d'une scène de dénonciation politique de la surveillance ou de la sécurisation publique. Donc, les artistes qui s'activent et qui s'expriment dans la rue le font pour vraiment diverses motivations. Il y en a, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y en a qui vont être carrément dans un objectif militant. Donc, les œuvres vont être chargées de messages, de revendications ou de dénonciations. Et d'autres, ça va être
tout simplement pour le simple plaisir de l'esthétique, de l'art, de mettre de la couleur sur...
Les poteaux de téléphone qui sont décorés un petit peu partout à travers la ville, là. En basse-ville, il y a
ça.
Ouais, des fleurs en plastique, des trucs, là. Il y en a quelques-uns comme ça.
Et ça fait du bien, là, franchement, sur le monochrome industriel ou béton qu'on a en ville. Ça fait du bien de voir un peu de couleur. Et puis, je trouve ça complètement fou qu'ils repeignent ça, qu'ils payent des personnes pour repeindre ça. Moi, ça m'échappe un peu. Donc, c'est ça. Donc, on offre vraiment l'œuvre d'art dans la rue offre une rupture symbolique, offre une occasion de repenser la ville. Moi, j'ai feuilleté plein de livres et des images très frappantes de...
Et d'ailleurs, tu as un livre que tu as amené
ici.
Je vais vous faire... Mais...
Une suggestion
parce
de livre à la suite.
Ce livre-là, oui. Il est génial.
Ben, je vais vous en parler tout de suite. En fait, c'est un livre qui regroupe toutes les principales œuvres d'un artiste qui s'appelle Banksy. Et le titre du livre, c'est « Wall and Pieces ». Alors, Banksy, c'est un artiste vraiment reconnu qui se promène à travers le monde pour et qui suit aussi des enjeux politiques, comme par exemple récemment, il est allé en Nouvelle-Orléans, à New Orleans, et puis il a introduit, si tu veux, quelques œuvres dans des milieux clés où il y avait des revendications par rapport aux ressources publiques qui venaient pas, ou la privatisation, la pauvreté, tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il détourne des publicités à tout bout de champ. Donc, c'est assez... C'est
très fort, les images.
Très fort. Deux policiers qui s'embrassent sur le bord, sur le coin d'une rue. C'est très marquant, c'est subversif, oui. C'est puissant. Donc, c'est ça. En fait, le street art, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées dans la rue. Il y a le pochoir, comme je disais, qu'on appelle en anglais le stencil. Il y a les installations, donc reprendre un objet trivial et le transformer ou installer quelque chose autour. Une affiche, des collages, de la peinture, des mosaïques, des projections vidéo, toutes sortes d'éléments. En fait, j'en oublie sûrement, là, ça se développe de plus en plus.
C'est limité, dans le fond, tu peux...
Oui, c'est ça. Et puis, le street art commence de plus en plus à rentrer dans les hauts lieux de l'art. C'est intéressant, soit de manière légale ou illégale, parce que, par exemple, comme Banksy, lui, il s'en va carrément dans les musées et il met ses œuvres sur les murs. Ça prend quelques jours. Et ça prend quelques jours avec les gens s'en rendent compte. Puis c'est vraiment des choses trash qui subversent. Par exemple, la Mona Lisa qui a un visage complètement déformé avec d'autres... Ou, par exemple, une espèce de paysage expressionniste avec des caméras de sécurité dedans. des choses comme ça, c'est que c'est super intéressant. Puis un autre artiste assez connu aussi qui s'appelle Shepard Fairey, qui, lui, est carrément invité dans les musées pour faire des présentations, l'exposition de ses œuvres. Alors, il est de plus en plus reconnu. Et lui n'est pas... parce que Banksy, je l'ai pas dit, mais c'est quelqu'un qui veut garder son identité.
Qui fait pas mal illégal, j'imagine qu'il veut pas trop être connu. Là,
exactement. Donc, il organise des événements, puis parfois, il vient juste pas ou il vient masqué. Il tient vraiment à son...
son anonymat.
Anonymat, c'est le mot qui me manquait. Donc, c'est ça. Au contraire, Shepard Fairey, qui est très connu, qui a produit beaucoup d'icônes reprises par les milieux militants, qui a produit aussi pour la campagne d'Obama, des espèces de... En tout cas, bon, il navigue à travers les courants politiques militants, des icônes d'Obama assez connues aussi. Alors, où j'en étais? Ben, en fait, je conclurai en disant que le street art est super intéressant aussi parce qu'il soulève des enjeux cruciaux actuellement, comme par exemple la question du copyright. Parce que, bon, c'est vraiment quelque chose dans le milieu de l'art qui est assez délicat, parce que, bon, comment qu'on peut reprendre des photos, comment qu'on peut reprendre des images, comment qu'on peut les retravailler, comment qu'on peut subvertir des publicités, à qui revient l'argent, blablabla, voilà, donc c'est un enjeu très fort en ce moment, et puis le street art permet, bon, de bousculer ça, de poser des questions, puis c'est très important de voir vers où ça s'en va, parce que ça peut créer des précédents légaux, tout ça, par rapport à l'utilisation ou le détournement d'images. Et puis aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est que il y a une coercition, il y a une oppression, il y a des artistes qui se promènent dans les rues finalement et qui deviennent de plus en plus appréciés du public et le public en demande. Donc ils sont arrêtés, mais le public en veut, puis les gens dans la rue veulent ces œuvres-là.
Oui,
donc jusqu'où va la légitimation de l'illégalité de l'art dans la rue? Donc c'est vraiment une question intéressante aussi, je trouve.
Puis j'imagine aussi qu'il y en a qui se font de l'argent avec ça. Je veux dire qu'ils font de l'art dans la rue, mais qui après réussissent à en retirer quelque chose aussi.
Oh, oui, exactement.
Il y a de tout.
Oui. Donc, c'est une question intéressante puis importante que soulève le mouvement. Je finirai en disant que, en vous suggérant finalement le livre Banksy, Wall and Pieces, que je vous ai nommé, un livre de Shepard Fairey qui s'appelle Supply and Demand, The Art of Shepard Fairey, publié à Jinko Press. Et puis, un livre super intéressant parce que c'est un monde d'hommes, street art et tout ça. Un livre qui a été écrit par un homme aussi, mais qui s'intitule Graffiti Woman, Street Art from Five Continents. Puis là-dedans, on voit vraiment toutes les œuvres féminines. Donc, c'est intéressant de voir une présence féminine qu'on voit pas souvent. Et je vous conseille le site de Banksy, banksy.co.uk ou artofthestate.co.uk. Ça regorge d'exemples et d'œuvres fascinantes. Alors voilà.
Mais merci Geneviève, c'était vraiment très intéressant. Super. T'avais-tu autre chose à dire? Non?
Ouais, je pense que je arrête ici.
Alors voilà, tu es coupée. C'est la fin. Alors, on s'en va en musique. Marie, qu'est-ce qu'on
écoute? On écoute, là, c'est un classique reggae de Althea et Donna qui s'appelle Uptown Ranking, que vous reconnaîtrez sûrement, là. C'est vraiment une bonne musique.
Yay! Vous étiez à l'écoute de Squatel et on doit malheureusement conclure. On a plein de choses à vous dire. Entre autres, il y a le Salon du livre anarchiste en fin de semaine à Montréal le 16 et le 17 mai. Si vous passez par là, demain à l'AJT, il y a des artistes, des rappeurs beatboxers qui s'appellent The Outspoken Wordsmith qui sont à l'AJT demain soir. C'est des artistes anarchistes de Victoria. Et si vous êtes à Montréal aussi, en fin de cette semaine, jeudi, il y a une manifestation pour le droit à l'avortement. En fait, c'est une contre-manifestation à un appel de mobilisation des pro-vie qui ont été appelés à manifester à Ottawa, mais il y a une manifestation qui s'organise à Montréal, pro-choix. Donc, c'est jeudi prochain, 14 mai à 17h30 au Square Cabot, près du métro Atwater. Donc, ça complète l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Moi, j'ai vraiment aimé l'émission, personnellement, de manière très égoïste. À la mise en onde, on avait Claire Guérino et Chantal. On avait Marie Medec au choix musical, Geneviève qui nous a présenté d'excellentes chroniques culturelles sur le Living Theatre et le Street Art. Et moi-même, Hélène, qui vous a parlé du Festival de l'Anarchie et du Salon des Évanarchistes. Alors voilà, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. Sinon, restez à l'écoute avec Plastique Mécanique qui suit sur les ondes de CKIA FM.